C'est le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Ils étaient 110 000 dans toute la France la semaine dernière. Ils sont attendus dans des proportions similaires aujourd'hui. Les opposants au vaccin anti-Covid et au pass sanitaire défilent dans toute la France. Les services de renseignement suivent de près le mouvement. Ils redoutent notamment des infiltrations de militants violents. Et puis nous irons aussi à Nice, où le pass sanitaire sera imposé dès la semaine prochaine aux enfants allant dans les centres de loisirs. En Hongrie, où la marche des fiertés se tient dans un contexte de recul des droits LGBT aujourd'hui à Budapest. Et direction Tokyo, évidemment, pour les Jeux Olympiques. Les premières médailles sont décernées dès aujourd'hui, notamment en cyclisme. Nous sommes sur place.
Et à 8h20, on se demandera à quoi ressemblent nos vacances sous la menace du variant Delta. Comment s'en sortent les professionnels du tourisme avec le pass sanitaire? Deux invités ce matin, la patronne de l'UNAPARELL, la fédération de camping, Sylvie Henry, et le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. Ils seront à notre micro dans 20 minutes.
France Inter.
Comme la semaine dernière, donc, les opposants au pass sanitaire et à la vaccination se donnent rendez-vous dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, manifestations en ordre dispersé, comme à Paris où il y a deux cortèges. Des rassemblements également à Marseille, Nantes, Annecy ou encore Dunkerque. Samedi dernier, il n'y avait pas eu de débordement majeur, mais Ariane Grissel, le mouvement est toutefois surveillé de près par les autorités.
Les services de renseignement disent attendre à peu près la même participation que la semaine dernière, environ 110 000 personnes dans toute la France. Pas d'inquiétude majeure à ce stade sur le déroulement de ces manifestations, mais une vigilance tout de même. Les cortèges sont décrits comme hétéroclites, tous âges, tous milieux sociaux. Les manifestants n'y sont pas à proprement parler anti-vaccins. Leur mobilisation vise surtout à protester contre les mesures sanitaires en général. Et beaucoup défilent en famille. Peu de craintes donc de ce côté-là. Mais les services de sécurité disent également redouter l'infiltration de mouvements pouvant se montrer violents, issus de l'ultra-gauche comme de l'ultra-droite, ainsi que des milieux ultra-catholiques dont une partie s'oppose à la vaccination des plus jeunes. Les autorités craignent un scénario similaire à celui des Gilets jaunes, où les premiers rassemblements s'étaient déroulés sur le même modèle, populaire et familial, avant de se durcir et de mener régulièrement à des affrontements entre manifestants et policiers ou gendarmes.
Rien Grissel, et pendant ce temps, le projet de loi poursuit sa route au Parlement avec l'examen et un possible vote en première lecture ce soir au Sénat.
Christian Estrosi, lui, n'attend pas le Parlement, le maire de Nice étant comme nulle part en France le pass sanitaire.
Dès mercredi prochain, il sera exigé pour les enfants dans les centres de loisirs, c'est-à-dire des enfants âgés parfois de seulement 3 ans. Le 20 juillet dernier, le taux d'incidence atteignait 314 cas de Covid pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Le variant Delta, très très contagieux, inquiète les autorités de Nice. Pour Liano Azine Erinal, directeur général des services de la ville et de la métropole Nice-Côte d'Azur, il s'agit surtout de protéger les enfants.
Aujourd'hui, nous avons une propagation extrêmement rapide du variant qui touche essentiellement des jeunes populations, qui sont aussi nos jeunes animateurs, mais qui sont aussi nos jeunes enfants, notamment dans les colonies de vacances. Et donc, les mesures qui ont été prises ne suffisent pas. Notre mesure, celle qui consiste à demander à ce que les enfants puissent avoir un test, notamment un test salivaire, évidemment est accompagnée par la ville de Nice, puisque nous mettrons en place un centre dédié qui permettra aux familles de venir emmener leurs enfants. Et nous avons des professionnels, des infirmières que nous avons recrutées qui viendront faire ces tests de façon à ce que, dès la semaine prochaine, à partir de mercredi, ils puissent avoir ce test PCR. L'idée, c'est évidemment de les accompagner, mais aussi, surtout, de les protéger.
Lauriano Azine Erina, directeur général des services de la ville et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et ce centre de tests salivaires et PCR sera mis en place dès demain à Nice. Et hier en France, 21 000 nouveaux cas de Covid diagnostiqués. Toujours pas de forte pression sur les hôpitaux, mais une légère augmentation des malades en réanimation, où se trouvent actuellement 872 patients. Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, estime qu'au début du mois d'août, la France devrait voir 50 nouveaux cas chaque jour. En Hongrie aujourd'hui, la marche des fiertés s'annonce tendue. À Budapest, la communauté LGBT défend ses droits au moment où il semble plutôt reculer, avec de nombreux projets de loi déposés par le gouvernement de Viktor Orban et jugés discriminatoires par Bruxelles. D'ailleurs, l'Union européenne a déclenché une procédure en infraction contre la Hongrie. Dans le cortège de la marche des fiertés aujourd'hui dans la capitale hongroise, Sébastien Touleur, il est responsable des questions de genre pour Amnesty International et dénonce un recul croissant des libertés en Hongrie.
Depuis 2020, il y a une succession de projets de loi donc visant d'abord à interdire le changement d'état civil des personnes trans et intersexes, visant à constitutionnaliser cette interdiction, puis à interdire l'adoption, et maintenant donc on en vient à interdire la représentation de l'homosexualité, la transidentité dans l'espace public, dans les médias et dans l'éducation. Vu les discours de haine qui se succèdent en Hongrie, il était important de montrer également physiquement sa solidarité avec les militants, les militantes qui sont sur place et qui font un travail considérable pour promouvoir et protéger les droits humains des personnes LGBTI, la liberté d'expression, l'égalité, la dignité. Et c'est pas des choses, encore moins dans l'Union européenne, qui pouvaient nous sembler si fragiles. Et en fait, on voit bien que depuis 2020, le parti au pouvoir s'attaque régulièrement aux minorités et aujourd'hui aux personnes LGBTI et qu'il est urgent de réagir et de les soutenir.
Sébastien Touleur d'Amnesty International, il répondait à Marie-Pierre Véraud.
Ce n'est pas de saison, mais faire un feu de bois dans une cheminée ancienne, c'est comme rouler avec un vieux moteur diesel pendant 2000 km, et c'est le gouvernement qui le dit.
Oui, c'était hier à l'occasion de la présentation du plan pour réduire la pollution liée au chauffage au bois d'ici 2030, avec notamment dès 2022 l'interdiction des foyers à des cheminées à foyers ouverts dans les constructions neuves. Certains coins de France n'attendront d'ailleurs pas cette date. Dès l'hiver prochain, les cheminées à foyer ouvert seront interdites, tout simplement dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc, où les standards de pollution en particules fines sont régulièrement dépassés. Un plan accueilli avec soulagement par Muriel Auprince, membre de l'association Colère Pure.
Les mesures du gouvernement de dire donc en 2030 il faut diviser par deux, bah bien sûr c'est la, j'ai envie de dire, la moindre des choses, puisque on est toute l'année, en fait on a une pollution chronique, on est dans une vallée très encaissée, la pollution stagne, et du coup dès qu'on est nombreux à faire du feu, effectivement il y a une chape de pollution qui n'est pas la seule, le bois n'est pas la seule pollution en cause, puisqu'il y a également des usines et une autoroute qui va au tunnel du Mont-Blanc qui apporte beaucoup, beaucoup de pollution également. Mais voilà, on aimerait bien aussi qu'il y ait beaucoup plus d'informations faites aux particuliers et aux vacanciers. On a tous dans notre quartier des gens qui brûlent des cagettes ou du bois qui est peint ou laqué, ou tout ce qui leur passe par la main, j'ai envie de vous dire comme dans le temps, qui ne font absolument pas attention quand on a des vigilances pollution. On aimerait qu'il y ait une police de l'air qui soit installée. Il faut être conscient là que chacun est responsable de cette pollution, oui.
Muriel Auprince, membre de l'association Colère Pure, elle répondait à Sandy Dauphin. Nouveau samedi dense sur les routes, bison futé, voie rouge dans le sens des départs. C'est orange dans le sens des retours.
Et nous partons maintenant à Tokyo, Raphaël, avec la première journée de compétition aux Jeux Olympiques.
11 médailles décernées aujourd'hui, parmi lesquelles le vélo, la course en ligne qui a démarré à 4h du matin, heure de Paris évidemment, est en cours. Fanny Lechevestrier, vous êtes au Japon pour France Inter. Fanny, à 100 km de l'arrivée, et ce parcours qui passe d'ailleurs sur le Mont Fuji, on attend toujours l'explication entre les favoris. Ce sont les mêmes que sur le Tour de France d'ailleurs.
Eh oui, à commencer par Tadej Pogacar, hein, le Slovène. D'ailleurs, c'est son équipe qui roule à l'avant du peloton, qui impose désormais un gros rythme devant, accompagné par la nation de Belgique qui roule là pour Greg Van Avermaet, qui a été lâché, qui a fait un gros boulot au début, et Wout Van Aert qui est bien placé dans ce peloton. Notez qu'il y a 5 coureurs devant, mais l'écart diminue, hein. Ils sont partis dès le début de la course, c'était pas des grands noms. Ils ont montré le maillot, rendu fier leur pays, mais voilà, là l'écart diminue, plus que 8 minutes avec le peloton sous l'impulsion des Slovènes. Les Français qui sont bien placés dans ce peloton, on surveille notamment David Godu et Guillaume Martin. À noter qu'il fait très chaud, ça commence à jouer des tours au peloton, on va chercher des poches de glace à la voiture médicale pour tenter de se rafraîchir, mais c'est sûr que ça va faire des dégâts dans la suite de la course. Moins de 100 km désormais à parcourir pour arriver sur le circuit automobile de Fuji.
Merci Fanny Lechevestrier, vous nous tenez bien évidemment informés. Et puis les JO, ce sont aussi des sports collectifs. Les handballeurs français sont bien entrés dans leur tournoi tout à l'heure. Victoire contre l'Argentine, 33-27. Emmanuel Macron était à la cérémonie d'ouverture hier, il est encore à Tokyo. Le président a même eu la chance d'assister à des épreuves, notamment le judo aujourd'hui. Les épreuves se déroulent au Nippon Budokan, un endroit absolument mythique. Nous en parlons avec Xavier Monferrand. Xavier, le Budokan, c'est le temple mondial des arts martiaux.
Bonjour.
Oh oui, c'est presque, Raphaël, c'est presque sacré. Bonjour, Raphaël. Ce Budokan, le Budo, ce sont les arts martiaux japonais. Kan, c'est la maison. Donc, c'est vraiment le temple des arts martiaux. Un site construit pour les Jeux de 64 qui fait partie de l'héritage olympique à Tokyo. Un temple octogonal avec un toit qui lui donne un petit air de Mont Fuji. Quand je vous parle de temple, c'est pas galvaudé. Il est inspiré du Yumenudo, un pavillon du 8e siècle situé dans l'un des plus vieux monastères bouddhistes du Japon, à Nara, et pour le symbole ici au Budokan. Nous sommes certes en plein centre-ville de Tokyo, mais surtout juste à côté du palais impérial et du sanctuaire de Yasukuri, un sanctuaire controversé, car ici sont célébrés certains criminels de la Seconde Guerre mondiale. Preuve que l'on est au cœur de l'histoire. L'histoire ici, c'est aussi ce qui est resté un drame national, la défaite en finale des JO de 64 de la star japonaise du judo à l'époque, Akio Kaminaga, face au néerlandais Anton Gesink. Alors, une victoire japonaise ici au jeu en 2021, eh bien, ce serait bien plus qu'une médaille d'or, ce serait vraiment une revanche sur l'histoire.
Et Xavier, le Budokan, c'est aussi connu des fans de rock.
Oui, effectivement, c'est un lieu à l'acoustique exceptionnelle et sa renommée a fait le tour du monde de tous les spécialistes du son. Et puis en 66, 2 ans après les Jeux de Tokyo, il y a 4 petits Anglais qui cherchaient un lieu assez grand pour se produire à Tokyo. Voilà comment les Beatles y ont donné le premier concert de rock ici dans ce Budokan qui est devenu une marque, un gage de qualité. Plein de groupes de rock s'y sont produits comme Oasis ou Blur et puis beaucoup y ont enregistré leur concert, le fameux Made in Japan de Deep Purple. Eh bien, il a été capté en partie ici. C'est vraiment un lieu de légende du rock, un peu moins aujourd'hui. Désormais, c'est la scène japonaise actuelle qui s'est réappropriée les lieux.
Voilà, la découverte du Budokan avec Xavier Monferrand. Merci Xavier.
Et merci à vous Raphaël Delvolvé pour ce journal. 8h12, quel temps pour ce samedi.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et c'est avec Jean-Pierre Hameau.
Ce matin, vous allez retrouver des orages localement forts entre l'Ain et la Bourgogne, remontant vers le Grand Est. Des pluies orageuses aussi sur le Finistère. Prévoyez un ciel très nuageux des Pyrénées au Massif central, un régime d'averses de la Méditerranée au Massif alpin. Et puis dans les autres régions, un ciel variable, lâchant quelques averses par endroit. Cet après-midi, le temps restera orageux du Lyonnais au Savoie, de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Grand Est et le long des frontières du Nord, mais aussi de la Bretagne au Pays de la Loire, gagnant le centre et la Normandie, puis l'Île-de-France en soirée. Et partout ailleurs, le ciel sera variable, le soleil va même briller, hein, de la région PACA à la Corse. La chaleur restera d'actualité près des frontières de l'Est ainsi qu'autour de la Grande Bleue. Comptez 30 degrés à Mulhouse et Lyon, 34 à Marseille et jusqu'à 35 à Ajaccio. Prévoyez 22 à 27 degrés ailleurs avec 22 degrés à Brest, Rennes et Nantes, 24 degrés à Bordeaux, 25 à Lille et Nancy. Et puis on attend quand même 26 degrés à Paris.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.